Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour Atmen, bonjour François, Thierry.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Armel, le génie dit. Vous avez passé le même week-end que moi ou pas? Vous êtes fait engueuler, vous avez engueulé, vous avez dit à des gens que c'était pas pareil, Le Pen et Macron, ils vous ont dit oui, je n'ai pas de leçon à recevoir, tu n'as pas des je suis majeur et vacciné.
Ils ont bien dit moi non, Macron de la banque Rothschild.
Oui.
Et ben j'ai dit alors donc Le Pen. Ah non. Plus. Et si, il y en a un qui va être élu, il y en a un des deux, c'est le système.
Alors c'est en vrai, vous les avez croisés. On les a eu au téléphone, sur internet, des tombereaux d'insultes, des gens qui, tout à coup, qui s'aiment, qui s'engueulent. Qu'est-ce que vous avez eu, Atmen, vous, les gens autour de vous?
Oui, moi j'ai un peu engueulé les gens autour de moi parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas voter, par exemple.
Moi j'ai essayé sur des 18-25 ans, je me suis bien engueulé.
Ouais, c'est ça. Les gens qui disent, moi mon frère j'ai appris qu'il avait voté Asselineau, ça m'a paru très bizarre.
Oui, alors, des choses remontent, vous savez, dans plusieurs années, dans les familles, on entendra des trucs formidables. Vous avez vu, il y a le mathématicien Villani ce matin qui a expliqué mathématiquement ne pas voter, c'est une demi-voix.
Oui.
C'est une demi-voix. En tout cas,
tout le monde sort des théories.
Voilà. Alors, et ben, tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette pouette la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
C'est le journal de Thierry Paret. Vous en avez eu des échos, vous, François?
En tout cas, tout Paris bruisse de rumeurs assez élogieuses sur le journal qui va nous être présenté dans quelques secondes.
J'ai entendu aussi, moi, depuis 24 heures, c'est une rumeur en ville. Il paraît que Thierry Paret, ce mardi matin, va être j'ai entendu exceptionnel. Vous avez entendu quoi?
J'ai entendu ça grimpe, ou s'arrêtera-t-il?
Non, je sais qu'il y a presque un trac, il y a une envie, il y a une peur. Vous savez, les choses qui font trop envie, elles font peur. Il y a une telle attente, Thierry, sur votre journal, qu'il y a des gens qui disent non, attendez, peut-être qu'il ne faut pas le faire.
Non, moi je pense qu'il faut le faire. Je pense que je suis à la hauteur en plus.
Je la confiance. Moi je le lis dans ses yeux, la confiance.
Ouais. Dominique Reynier est venu exprès, qui sont là. Il y a les Thierry Paret qui sont des jeunes filles avec le visage de Thierry Paret sur leur absence de t-shirt. À tout de suite. Allez, merde.
Ce ne fut pas une déferlante comparable à celle du 1er mai 2002, certes, mais malgré tout, les manifestations d'hier n'ont pas été ridicules, hein, loin de là, en dépit de syndicats défilant parfois en ordre dispersé, puisque le matin, certains syndicats appelaient à défiler en appelant à voter Emmanuel Macron. L'après-midi, c'était plus contre le Front National. Voilà, ils étaient 80 000 manifestants à Paris, 40 000, ce sont les chiffres des syndicats, hein, 40 000 dans les Bouches-du-Rhône, 15 000 à Toulouse, 8 000 à Lyon, 6 000 à Nantes, 5 000 à Rennes, 4 000 à Bordeaux et Strasbourg, plus de 2000 à Lille. C'est d'abord donc le refus du FN et de ses idées qui a drainé une foule plus dense qu'à l'accoutumée, même si pour bon nombre, hein, l'idée de voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, en tout cas dans les cortèges, est un crève-cœur. Le cortège parisien a été marqué par des affrontements entre Black Bloc, des activistes autonomes, et des CRS, des affrontements qui ont fait 6 blessés côté CRS, dont un grave. Le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, a dénoncé des centaines de casseurs professionnels en marge des manifestations. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient en meeting hier, le premier à la Villette, la deuxième à Villepinte, en région parisienne. Emmanuel Macron a qualifié son adversaire de candidate anti-France et cette dernière a qualifié le candidat du mouvement En Marche de candidat de la finance. Un nouveau sondage à 6 jours du second tour place Emmanuel Macron largement en tête du scrutin avec 59% des intentions de vote contre 41% pour Marine Le Pen. Le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen ne passe pas vraiment comme une lettre à la poste auprès des ténors du mouvement Debout la France. Plusieurs cadres du parti souverainiste ont annoncé leur démission évoquant une faute morale de leur leader et une erreur politique. Une quarantaine d'associations et syndicats de la culture, dont la CGT Spectacle, l'Association Française des Orchestres ou encore la Ligue de l'Enseignement, appellent un rassemblement citoyen contre le FN ce soir à Paris à partir de 19h30, c'est à la Philharmonie de Paris très précisément. Y aura-t-il assez d'assesseurs dans les bureaux de vote dimanche prochain? C'est une question qu'on peut se poser. Plusieurs maires d'Île-de-France tirent déjà la sonnette d'alarme. L'élimination dès le premier tour du PS et du Parti des Républicains, qui fournissent habituellement le gros des troupes, pose de gros soucis d'organisation apparemment pour le deuxième tour, alors que les assesseurs sont censés représenter les candidats toujours en lice.
Alors attendez, là déjà une pause, là c'est assez énorme là. On a eu vraiment un panorama. On a parlé d'un petit, du très grand au très petit. Vous avez vu, on est parti des candidats. On est allé aux assesseurs, tout ça avec modestie, avec élégance. Les consonnes étaient bien martelées. Les voyelles étaient aériennes. Pour le moment, c'est formidable.
C'est une leçon.
C'est une leçon. Je ne parle même pas du fond, mais déjà sur la forme, on est gagnant.
Chaque 1er mai marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures. Bah, 2017, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Entre autres, l'augmentation du tarif de consultation des médecins qui passe de 23 à 25 euros. Une baisse du prix du gaz de 3,3%, c'est une moyenne. Ou encore la mise en place d'une taxe de séjour par Airbnb dans 31 nouvelles villes françaises.
Ah, ouais, attention.
Pardon, excusez-moi.
C'est joli, vous avez montré la fragilité. Et ça vous va bien.
Ça reste un exercice humain.
Mais c'est ça qui est beau. Il y a un tout petit peu d'humanité. Vous étiez une machine à faire rêver, à exciter les gens. Là, vous êtes humain.
On y reviendra sans doute, mais les Algériens sont appelés aux urnes jeudi prochain pour des élections législatives dont ils semblent se foutre royalement. Le régime du président Bouteflika.
Il y a un Algérien dans le studio. Est-ce que tu vas voter, Atmen?
Moi, je vais voter France.
Toi, t'es Algérien quand ça t'arrange et le Bijouin quand tu veux.
Mais dans une semaine, ça va beaucoup m'arranger, j'ai l'impression.
Bref, ça les intéresse pas beaucoup, les Algériens. Et le régime du président Bouteflika l'a très bien compris, qu'il use de tous les moyens en ce moment à sa disposition pour tenter de convaincre les Algériens d'aller voter. Il y a 5 ans, le taux de participation s'élevait à 34%. Être en dessous du seuil des 30% jeudi, ça signifierait que l'Assemblée nationale n'a absolument aucune représentativité, ou pas beaucoup en tout cas.
François Rollin, vous me disiez, le problème, c'est quand on est parti d'Algérie, on les a laissés entre eux. Et la merde a commencé. C'est pas ça que vous me disiez hors antenne ?
Oui, mais parce que ce sont des gens qui n'ont pas le sens de la discipline.
En plus, là, j'ai des photos des routes que vous avez construites avec votre famille là-bas. Il y avait une infrastructure formidable. Les gens n'ont jamais été aussi. Je comprends pas ce qui s'est passé.
On a tourné le dos et ça ressemble plus à rien.
Rien. Puis regardez, les bâtiments sont dans un état.
Pardon, ça n'est pas être réactionnaire de le dire. C'est un constat.
Non. Gardez ce discours pour la semaine prochaine.
Non, ça n'a rien à voir. On peut encore parler dans ce pays.
Dernière info, sinon ça va être beaucoup trop long. Le PSG va rencontrer le Red Star ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions de football pour la 4e année consécutive. Ah, c'est une bonne grosse blague, évidemment. Mais il y a des pays où c'est possible. En témoigne l'Espagne. Le Real Madrid va recevoir ce soir l'Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs vont s'affronter pour la 4e fois consécutive dans cette compétition. L'autre demi-finale, elle opposera Monaco à la Juventus de Turin. Et ce sera demain, on aura le temps d'y revenir.
Pourquoi vous nous avez fait une blague? C'est pas gentil.
C'est pour être drôle pour le...
Bah oui, mais c'est
détendre l'atmosphère.
Pour les amateurs de foot, elle était très bonne. Hein,
je trouvais tendu.
Oui, mais c'est pas ça. Je voulais un côté un peu. Il faut se méfier du mot parce que ça peut blesser des gens.
Je suis désolé, vraiment.
Je sais que vous, a priori, l'idée de détendre les zygomatiques, c'est de faire du bien au corps et à l'âme. Il y a des gens qui peuvent le prendre personnellement. Je vois mon François Rollin, il est.
Je suis confus. Je suis vraiment désolé.
J'essaye de me mettre dans le ton, mais c'est vrai que ça n'a pas. Ouais. Non, j'ai non, le droit.
Non, parce que vous l'avez trouvé.
J'étais bien jusque-là, puis j'ai
ah bah non, dérapé, tout ce qu'il y a eu avant, c'est formidable. Je persiste.
Mais il suffit.
Après, est-ce qu'elle est nécessaire, cette blague? Qu'est-ce qu'elle apporte?
Est-ce qu'elle n'est pas excluante? C'est-à-dire, il y a ceux qui auraient compris cette blague et ceux qui ne l'auraient pas compris, qui deviendraient des imbéciles. Et après, vous allez dire que si on ne comprend pas cette blague, moi j'ai envie de voter Marine parce que je n'ai pas compris cette blague. Vous êtes en train de stigmatiser les gens, vous m'excluez de votre blague, vous me renvoyez. Vous comprenez, c'est très grave ce que vous faites. À cause de gens comme vous, et je trouve même que cette candidature est trop modérée. Il n'y a pas une candidature plus extrême que Marine Le Pen en ce moment comme proposition. Eh bien, ça manque. Tout le monde vient de quitter le studio, il reste un type. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
J'ai écouté Gainsbourg sur TSFJ ce matin, je me suis qu'on allait l'écouter aussi, ça fait du bien. Alors, bonjour, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ah, c'est le club des connoisseurs.
Mais oui,
pas vrai. Ils sont là. Ils vivent, ils respirent, ils sentent, ils touchent, ils hument. Ils salivent, ils goûtent la vie par tous les sens et nous le font partager le matin. Bonjour à tous, nous sommes rejoints par Marie Missé, de sinistre mémoire, puisque votre comportement pendant la guerre, Marie Missé, n'a pas été un exemple.
Elle
a gardé ses cheveux, par contre.
Elle a été pétiniste en 40, gaulliste en 44, étudiante en 68, gaulliste en juin 68. Elle a ensuite soutenu tous les pouvoirs en place, très très proche de Sarkozy, puis de François Hollande. Elle hésite encore. Marie Missé, bonjour.
Bonjour, Edouard.
Marie Missé, en dehors, bien sûr, de ce qui nous préoccupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont intéressé?
Oui, un dîner désastreux.
Alors, on passe aux voix. Qui a envie d'entendre ce sujet?
Moi.
Moi aussi. Désastreux, c'est bien ça?
Oui.
Désastreux, il y a dîner déjà.
Le titre était un peu racoleur, mais il s'agit quand même d'un dîner désastreux entre Jean-Claude Juncker et Theresa May. Apparemment, ils ont passé un très très mauvais moment mercredi dernier, tant et si bien.
Attendez,
que Jean-Claude Juncker...
Rappelez, nous ne sommes pas Jean-Claude tous censés Juncker, savoir qui sont ces gens. Donc,
donc
si c'est un très mauvais moment, c'est tant et si mal, pas tant et si bien.
Tant et si mal, exactement. Et François Rollin, merci. Alors, Theresa May, donc, qui est à la tête du Royaume-Uni.
Vous savez, hein, que la presse de gauche anglaise l'appelle Kim Yoon May, l'appelle.
Ah ben, mais
lui donne le prénom
pas.
Du leader nord-coréen. Oui.
Merci de me donner cette
vous
information.
Gros bisous à toute l'équipe. Et donc, elle a dîné avec le patron de l'Europe qui n'aime pas les anti-européens tellement, hein, puisqu'il avait bousculé un peu Orban. L'année dernière, il avait bousculé Orban, il donnait des petites claques en disant dis donc, toi, espèce de dictateur. Vous vous rappelez pas ces images il y a un an?
Avec ses petites claques?
Oui, il donnait des petites claques à Orban. Dis donc, espèce de dictateur, il est inouï, Juncker. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est qu'est-ce qui était désastreux?
Ils ont très mal mangé. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, Jean-Claude Juncker a appelé Angela Merkel pour lui dire écoute, c'était horrible, j'ai passé un très mauvais moment. Et quelques jours après, dans les médias anglais, est sorti un sondage qui nous apporte un nouveau mot dans le vocabulaire du Brexit. C'est le breguette, le regret du Brexit. Apparemment, depuis pas très longtemps, eh bien, ça y est, le nombre d'anglais, enfin en tout cas d'habitants des Royaumes-Unis qui regrettent le Brexit serait plus important dans les sondages.
Alors Brexit, c'est la sortie des Anglais, des Britanniques d'Europe. Voilà. Breguette, on regrette. Et si tout à coup on veut sortir de son regret, c'est du Brexitix.
Brexitix.
Mais si on regrette d'avoir de s'être excusé d'être sorti, ça peut.
Brexit.
Oui, il y a un mot pour tout. C'est très rassurant. Dès qu'on peut nommer les choses, on sort de la barbarie, n'est-ce pas, Jean-Marie?
L'esprit est élargi. On peut dire que ton breguette est ouvert.
Non, alors ça, Atman était sorti prendre un café et un croissant. Alors au début, j'étais inquiet de le voir sortir. Et maintenant, je suis inquiet de le voir rentrer. C'est ça.
Et puis surtout, on se rend compte qu'il n'a pas du tout été chercher un café. Il a été préparé un jeu de mots. Il a compulsé le dictionnaire.
Il a été sur jeuxdemots.com.
Il est dans le bouquin de Jean Roucas. J'ai trouvé ce qu'il y avait de mieux. Et voilà.
Vous avez l'intégrale Franck de la personne avec vous. Vous y cherchez des blagues. Dites-moi, Marie, est-ce qu'on peut avoir des détails sur le dîner? C'est la conversation. Ils ont peut-être simplement mal mangé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Peut-être que la nourriture est à mettre en cause.
Moi, je suis déçu.
Est-ce qu'on a mangé luxembourgeois ou anglais? Dans les deux cas, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles.
Vous n'êtes pas dans les vieilles blagues sur la cuisine anglaise des années 80.
J'étais contente de dire luxembourgeois.
Alors dites-moi, moi, je suis un petit peu déçu par rapport à l'intitulé, un dîner désastreux. Je m'attendais à des petites anecdotes, du contenu.
Moi aussi, mais ils n'en disent pas plus dans Le Monde. Ils disent juste que le dîner a été un désastre.
Dominique Régnier, vous qui êtes professeur à Sciences Po, qui ne pouvez pas vous permettre de décevoir à partir d'un énoncé, vous avez été déçu, vous? Entre l'intitulé et le contenu.
Vous avez dit que c'était racoleur. Hein.
Non, mais moi, je pense que c'est un vocabulaire diplomatique. Donc, on n'a pas les mêmes unités de mesure. Ça ne s'est pas bien passé entre eux. Le repas était convenable. Mais le sujet les a séparés. Donc c'est,
oui, ça puis libre à chacun, Edouard, ensuite d'instiller dans cette aventure des petits incidents gastronomiques. Par exemple, la cuisson des viandes était approximative.
Mais j'aurais aimé l'entendre, bien sûr.
Oui, mais ça, c'est chacun qui doit le dire. Ah, c'est votre voix intérieure qui doit vous le suggérer. Mm-hmm. La tarte aux mirabelles était trop sucrée.
Peut-être qu'il il restait peut-être un noyau de mirabelles, et voilà. Peut-être qu'un des bridges de Jean-Claude Juncker a sauté.
Oui, a dérapé.
Et dites-moi, vous dites en langage diplomatique, moi je crois au contraire, le langage diplomatique atténue les choses. Donc pour dire un désastre en diplomatie, il faut que ça soit vraiment...
Ça a dû très mal se passer.
Éloignez-vous encore plus du micro.
je ne suis pas un professionnel de la radio. Non. Ça a dû très mal se passer entre eux. Non, vraiment, sur les conditions de sortie du Royaume-Uni.
Mais il a appelé Angela Merkel dans la foulée. Hein, donc ça veut dire que vraiment, il avait besoin de se confier.
Mais vous pensez qu'elle l'appelle comment? Moi, ça me fascine, par exemple. Jean-Claude Juncker, il a un portable, par exemple. Ouais. Alors, par exemple, il sort de table, il dit au revoir, madame May, I am very déçu. OK, le dîner, c'est pour moi, il signe l'addition. Bon, enfin, des langages diplomatiques. Ensuite, il sort. Est-ce que vous croyez qu'il a en mémoire à AM ou à chancelière allemande ou à Angela, il appelle, oui.
Il
en mémoire. Il sort son petit portable de sa poche intérieure, il s'est trompé de poche, il est un peu distrait, mais c'est une lunette. Alors, il appuie, il est aux toilettes ou dans le couloir, ça sonne une fois, deux fois, elle voit que c'est lui parce qu'il n'appelle pas en masqué, Juncker.
Non, il n'appelle pas en masqué, il appelle en... Angela, il ne l'appelle pas en masqué, il l'appelle en visible.
Ça sonne, Angela Merkel est chez elle en train de jardiner. Son mari lui tend le sécateur. Non, cette rose tiendra jusqu'à l'été prochain. Dring, dring. C'est mon Jean-Claude, c'est mon JC, c'est mon Juncker. Tu as bien déjeuné? Non. Le dîner était une catastrophe. La tarte aux mirabelles ne valait pas cette tarte au Mirabel que tu m'as fait goûter à Strasbourg en 1997, lorsque, jeune étudiant fou, tu croyais encore que notre amour luxembourgeo-germanique tiendrait. Mais que s'est-il passé? C'est le mois de mai, mais le mois est meilleur que Madame May. Ah, un jeu de mots, un jeu de mots. Tout repart, on y croit à nouveau, tant que le rire est là, l'espoir est aussi là. A tout de suite avec la suite des Connoisseurs.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
C'est bien, ce petit fond musical n'est pas du tout anxiogène. Merci beaucoup, Armel, vraiment, ça me...
C'est la fin du morceau, en fait, de Malik Judy qu'on vient d'écouter.
Vous pensez que c'est le morceau lui-même ou c'est la fin qui nous inquiète?
C'est la fin du morceau qui est très inquiétant.
Voici une bonne thématique. Dominique Régnier, où on en est un petit peu là? Bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu qu'on n'a pas entendu sur la suite de cette campagne, sur la campagne que fait Marine Le Pen depuis quelques jours sur...
C'est une situation inédite, non pas que le Front National soit au second tour, puisque chacun sait que ça s'est produit il y a 15 ans. Ce qui est frappant, c'est de voir le Front National qui a sans doute le sentiment, qui éprouve dans sa façon de faire campagne avec sa candidate, qu'il n'y a pas de Front Républicain puissant comme il y avait en 2002. Le Front Républicain, c'est une notion, on doit éprouver quelque chose de puissant ou bien ça ne marche pas. Là, on peut dire que c'est quand
le
même...
Le Front Républicain, c'est tout le monde, et pour que ça marche, il faut vraiment...
Tout le monde, tout de suite, et puis c'est une évidence. Oui. Là, il n'y a plus d'évidence. On l'a vu pour le Front Syndical, on le voit pour la prise de position des candidats qui ont été défaits aux primaires ou bien qui ont été défaits à la présidentielle.
Et ce qui est étrange, c'est que, alors qu'en face, on a... candidature qu'on pourrait qualifier de centriste, c'est des deux côtés que ça lâche, et par la gauche et par la droite.
Absolument, absolument.
Républicain flanche. Oui.
En réalité, alors je ne sais pas si on peut dire à la radio comme ça des chiffres, mais en réalité, Edouard Baird, la situation est beaucoup plus impressionnante qu'en 2002, aussi étonnant que ça puisse paraître. Quand on fait le total au premier tour de la présidentielle de 2017, quand on fait le total des abstentionnistes, des votes blancs et de tous les votes qui ont été des votes de rupture, on arrive à 61% des électeurs inscrits. C'était 54% en 2002. Donc il y a une vraie aggravation de cette espèce de coupure politique au sein de la société française. Et dans ce cadre-là, Marine Le Pen au second tour, avec un Front Républicain qui en réalité n'existe pas, dans la puissance qui est attendue logiquement, eh bien, elle amène sans doute à imaginer qu'elle peut gagner. D'où le fait qu'elle ait fait cet acte assez incroyable de désinvolture aussi finalement, d'abandonner la thématique de la sortie de l'euro, qui est le dernier obstacle, en réalité, un obstacle matériel, très patrimonial. Hein. Les Français ne veulent pas risquer leur épargne, voilà ce qu'ils ont constitué dans leur existence. En sortant de l'euro, ils ne veulent pas quitter l'euro, les Français. Ils aiment bien le franc, mais ils ne veulent pas quitter l'euro. Elle dit « Ok, je ne quitte plus l'euro ». Et tout son programme s'effondre, puisque son programme est construit sur le protectionnisme, etc. Donc ça suppose de quitter l'Europe et l'euro. Mais ce n'est pas grave.
Donc vous voulez dire qu'en ces derniers jours de campagne, elle est prête absolument... Il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus que du culot, des phrases...
Il y a ça, et puis la promesse, toujours pareil. Enfin, il y a sa grande spécialité, son point de force, c'est l'immigration, l'islam, ces thématiques-là. Et au fond, ce qu'elle dit, je pense, moi, ce qu'elle est en train de dire aux Français... écoutez, ça, vous savez que vous l'aurez parce que c'est quand même ce qui caractérise mon parti et mon programme. Pour le reste, je vous le dis, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance.
Donc c'est une fin de campagne à la Trump, le côté il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien, il y a juste des phrases et une impression générale, et cette fameuse notion de système et d'antisystème.
Oui, de système et d'antisystème. Et alors là la difficulté, évidemment, c'est que cette façon, dans un Front Républicain qui n'existe pas comme une évidence spontanée et massive, par voie de conséquence, tout le reste peut être traité par Marine Le Pen et ses supporters comme une espèce de système qui se mobilise contre elle. Les appels à voter, c'est le système contre elle. Les médias, c'est le système contre elle. Donc ça renforce sa position, comme vous le disiez, de proche de celle de Trump. C'est-à-dire, au fond, vous voyez, les puissants ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas du peuple, etc. C'est une vraie stratégie. Elle est sommaire, mais elle est efficace dans un pays, encore une fois, qui est dans une protestation électorale sans précédent. Et c'est pourquoi les écarts qui sont annoncés, 60-40, 59-41, ne sont pas des écarts importants, en réalité, parce qu'il s'agit d'un parti très, très singulier, avec un programme qui est indéterminé, mais on connaît les valeurs et qui inspirent cette formation politique.
Qu'est-ce que vous diriez, Dominique, à des gens qui pensent, mais écoutez, pourquoi ne pas essayer une fois pour toutes ? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça ?
Un peu, si vous voulez, il y a des décisions, dans un monde démocratique, il y a des décisions sur lesquelles vous avez l'assurance de pouvoir revenir. C'est un peu ça, je trouve, moi, l'asymétrie, au fond, la différence. Vous pouvez revenir sur une majorité, elle peut vous décevoir, vous votez ensuite pour une autre sensibilité, vous formez une autre majorité, enfin vous placez vos espoirs dans une autre configuration. Là, on est quand même devant une formation politique dont on ne sait pas bien ce qu'elle ferait du pouvoir qu'elle aurait entre ses mains, d'autant plus que, je le rappelle, on a une loi renseignement qui a été adoptée, qui donne beaucoup de pouvoir de surveillance, on est dans un état d'urgence, qui donne beaucoup de pouvoir d'exception à l'État, et c'est ce pouvoir-là qui est confié à un parti dont la culture de gouvernement est nulle. Et ce sont ces formations-là qui, en quelque sorte, quand elles échouent, ne disent pas qu'elles ont échoué, qu'il faut laisser la place aux autres, mais qu'on les a fait échouer, qu'on les a empêchés de réussir. Et à ce moment-là, il y a une espèce de... Voilà,
on ne sait pas de quelles armes ils se serviraient pour rester au pouvoir, et comment ils s'en serviraient.
Voilà, sachant que les armes à disposition aujourd'hui pour un président quel qu'il soit, et un gouvernement quel qu'il soit, sont tout à fait considérables. La France est un pays qui a des armes très puissantes en termes de maintien de l'ordre, surveillance, etc. On ne l'a peut-être pas mesuré parce que ce sont des questions qui, dans les drames qui ont suivi les attentats depuis janvier 2015, on est passé, moi j'ai trouvé en tout cas à titre personnel, on est passé de manière très rapide, sans vrai débat et de façon assez légère, à des dispositifs de surveillance, d'assignation à résidence de manière purement arbitraire, de personnes qui peuvent être décidées par un gouvernement, etc. Surveillance généralisée, dans la rue on peut vous écouter sans difficulté, la police peut faire ce qu'elle veut. On s'est mis d'accord là-dessus dans une espèce de panique générale, sans beaucoup de débats, ce que je trouve dommage. Et ces dispositifs sont présents, ils sont actifs, donc on peut les utiliser, on les utilise.
Merci Dominique Régnier.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaous, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Thierry Paret avec 1 minute 30 de retard. François Rollin, il est en face de vous. Vous attendez quoi du rappel des titres de 7h30 ?
Je veux surtout dire que Thierry n'y est pour rien. C'est-à-dire toute la faute en revient à notre invité précédent qui n'arrivait pas à terminer sa phrase. Bon, maintenant qu'il est sorti du studio, on peut bien le dire. Il a mangé le pain dans la bouche de Thierry Paret.
De Thierry Paret. Non, alors, on parle du retard, mais je pense aussi que vous disiez tout ce que va dire Thierry Paret arrive vraiment. Ce n'est pas de sa faute. C'est-à-dire, ce n'est pas le messager qui est fautif. Très souvent, on accuse, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, on tue le messager. Non. Quel que soit ce que dit Thierry Paret, il n'y est pour rien.
Chez les Romains.
C'est aussi important,
oui,
François.
Oui. Alors, ce qui n'exclut pas une petite paire de claques de temps en temps. Non, pardon.
Alors, Titi.
Une quarantaine d'associations et syndicats de la lutte de la culture, dont la CGT Spectacle, l'Association française des orchestres ou encore la Ligue de l'enseignement, appellent à un rassemblement citoyen contre le Front National ce soir à partir de 19h30 à la Philharmonie de Paris. Le FN qui mobilise contre lui en ce moment. Plus de 1000 avocats ont signé un appel lancé vendredi dernier contre le Front National, parmi eux plusieurs anciens bâtonniers du barreau de Paris ou encore des avocats emblématiques de la lutte contre les discriminations. Un nouveau sondage à 6 jours du second tour place Emmanuel Macron largement en tête du scrutin avec 59% des intentions de vote contre 41% à Marine Le Pen. Le premier était en meeting à la Villette à Paris hier, la seconde était en meeting à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont dans la dernière ligne droite. Le candidat du Mouvement En Marche a notamment qualifié Marine Le Pen de candidate anti-France. La patronne du Front National a qualifié son adversaire de candidat de la finance. Mais ce n'est pas ce qu'on retient principalement ce matin, non. Ce que l'on retient, c'est que Marine Le Pen a plagié durant son discours plusieurs passages d'un discours de François Fillon, alors pas très vieux, datant du 15 avril dernier. Des propos repris mot à mot par la candidate du Front National. Certains se sont amusés à mettre les propos en son, en ondes sonores, comme on dit, les uns sur l'autre, et l'un sur l'autre, et c'est vraiment flagrant. Voilà. Ils étaient 80 000 manifestants à Paris, 40 000 dans les Bouches-du-Rhône, 15 000 à Toulouse, 8 000 à Lyon, 6 000 à Nantes, 5 000 à Rennes, 4 000 à Bordeaux et Strasbourg, plus de 2 000 à Lille, ce sont les chiffres des syndicats. Ce ne fut pas une déferlante comparable, certes, à celle du 1er mai 2002. Personne ne s'y attendait en même temps, mais les manifs du 1er mai hier ont été quand même importantes, en dépit des syndicats défilant parfois en ordre dispersé. C'est d'abord le refus du FN et de ses idées, hein, qui a drainé une foule plus dense qu'à l'accoutumée. Le cortège parisien...
Je trouve c'est sympa parce que dans les autres radios télé, on donne les chiffres de la préfecture, vous donnez les chiffres des syndicats, ça change un peu.
Vois, voilà, comme ça on permet de... Hein, voilà, c'est bien. Le cortège parisien a été marqué par des affrontements entre Black Bloc, des activistes autonomes et des CRS, des affrontements qui ont fait 6 blessés côté CRS, dont un grave. Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a dénoncé des centaines de casseurs professionnels en marge des manifestations. Chaque 1er mai marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures. 2017 n'échappe pas à cette règle, entre autres l'augmentation du tarif de consultation des médecins qui passe de 23 à 25 euros et une baisse aussi du prix du gaz de 3,3%, c'est une moyenne. Pour la première fois de son histoire, le Hamas a modifié son programme politique, acceptant notamment un État palestinien limité aux frontières de 67 et insistant sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Cette annonce intervient à 48 heures de la première rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le système antimissile que les États-Unis viennent de déployer en Corée du Sud est désormais opérationnel. Il a atteint sa capacité initiale d'interception. Selon les États-Unis, la Corée du Nord se dit tout près de la guerre. Et puis le Real Madrid va recevoir ce soir l'Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs vont s'affronter pour la 4e fois consécutive dans cette compétition. Demain, Monaco a rendez-vous contre la Juventus de Turin.
Merci. Ça va, Tmen ?
Oui, très bien. Moi, dans le club des connoisseurs, j'ai pas pu placer ma petite info.
Ah, bah c'était quoi, Minou ?
Oui, c'est un type qui a garé sa Porsche sur le défilé du 1er mai.
Ah bah faut pas le
voilà,
faire.
Voilà, le Beaumarché. Donc sa Porsche,
elle est
passée d'une Porsche GT à une Porsche CGT, c'est-à-dire...
C'est mignon,
voilà,
c'est
elle a eu plein d'autocollants, tout ça et tout.
Vous la mettez où, votre Porsche, vous ?
Moi, ma Porsche, je la garde dans la porcherie, c'est ce qu'on appelle...
deux jeux de mots en 30 secondes, vous êtes un génie, on part dans la rue.
C'est paradoxal, c'est pas complètement paradoxal. Et alors, on plisse les yeux comme ça.
Qu'est-ce bah oui.
C'est bon ça.
C'est bon, c'est très bon. Hein.
Ça fait du bien le matin.
Ça fait du bien, oui, bien sûr.
Et ça vous gêne pas pour pousser votre caddie avec c'est quoi que vous livrez là ?
C'est des annuaires, de la façon en fait.
Oui, c'est des annuaires. Ouais. Bon bah super.
Qu'est-ce qui se passe pour...
Alors on est salut.
Il s'en va ce monsieur ? Mais pourquoi il s'en va ?
Parce qu'il est en train de livrer, j'étais avec Philippe.
Comment il sait qu'il s'en va ?
Parce qu'il est parti, il a dit au revoir.
Ah d'accord, bonjour.
Bonjour, mais alors il livrait des annuaires et il plissait les yeux ?
Bah oui, parce qu'on est dans une rue en pente et en fait on était ébloui par le soleil, on parlait d'éblouissement avec Philippe.
Ah bon, parce qu'il y a seulement une des deux activités rémunérées, c'est ça qui est curieux, parce qu'il livre des annuaires, il plisse des yeux, on pourrait le payer pour plisser des yeux et non, on le paye pour livrer des annuaires.
Non, on aime bien plisser les yeux, là, on plisse les yeux tous là. Alors Philippe, il disait qu'on regardait le soleil et puis donc c'était l'avenir qui était complètement
bouché jusqu'à la semaine prochaine au moins. En tout cas.
Mais Philippe, vous ne livrez pas des annuaires, c'est l'autre monsieur ?
Non, moi je me promenais avec mon chien tranquillement. Je commence à travailler très tard, donc j'en profite le matin pour réveiller mon corps.
Qui promène qui ? Qui commence ? C'est le chien qui vous promène ou vous ?
Non, on est dans un équilibre d'équité avec le chien. Elle est bien éduquée, donc elle est avec moi, elle est tranquille, elle n'a pas besoin de tirer ni de me promener. Moi je profite du soleil qui s'éveille. Gens qui partent tranquillement au travail, là, dans leurs pensées.
Quel est son prénom ?
Au chien ?
Oui.
Alors, elle s'appelle Inja.
Inja ? Elle est investie dans la campagne, Inja ? Elle suit l'actualité ?
Pas du tout.
Non, elle en a un peu marre qu'on soit trop là-dessus. Elle trouve qu'on manque qu'on s'occupe moins d'elle ou pas en période électorale ?
Non, ça va. Elle trouve pas grand-chose, en fait. Moi, j'ai pas vraiment bougé mes habitudes, hein.
Donc on est là.
Ça fait plusieurs mois que je regarde pas la télé, donc du coup j'ai pas besoin de trop chercher de réponses quoi.
Donc Inja et vous, le matin vous partez en ville, vous partez.
Voilà, on part en ville tranquillement, on fait notre petit tour et puis quand on est à la campagne, et ben on part à la campagne.
Et puis alors là ensuite vous lui dites, écoute, je vais bosser Inja, je rentre, comment ça se passe ? Moi j'ai pas de chien, la séparation le matin.
Non, je lui dis rien, il faut rien leur dire aux chiens, il faut partir. Si tu leur dis quelque chose, en fait, ça les angoisse. Donc, le mieux, c'est de rien lui dire. Tu t'en vas normalement. Et le chien, lui, il prend ça normalement et il n'y a pas de problème. En fait, c'est les gens qui angoissent leur chien. Parce que si tu arrives et que tu dis à ton chien, viens, mon chien, je m'en vais et tout ça, tu lui crées une angoisse. Donc, le mieux, c'est de rien dire. Tu fais ce que tu as à faire et lui, il comprend et il s'en fout.
Est-ce que c'est un peu comme ça aussi pour quitter sa femme ? Est-ce que c'est François mieux de partir sans rien lui dire et puis...
Pas bien, pas misogyne. Le chien, les femmes, pour vous, c'est pareil. On a bien. Bravo.
Ça serait autre chose, quoi.
C'est autre chose. Et quand vous rentrez le soir, est-ce que Inja vous fait fête, Philippe ?
Bah non, c'est exactement la même chose. C'est une habitude à lui donner. Si elle te fait fête, elle fait 32 kilos. Donc si elle me saute dessus, ça va me faire drôle.
32 kilos de fête, ça fait beaucoup de bougies. Dites-moi, est-ce que Inja, moi je suis nul en animaux domestiques, sait qu'elle s'appelle Inja, par exemple ?
Ah, si elle sait, bah, je pense qu'elle reconnaît une intonation. Après, oui, quand tu l'appelles par ce nom-là, elle le sait. Maintenant, si je dis quelque chose en A...
Ou en IA, oui.
Voilà, ou en IA, elle va... Voilà, tout à fait. Elle
Qu'est-ce
va,
qu'on a en IA, Roland ?
On a... pyjama...
Oui, c'est
la
surtout FIFA, pyjama.
La FIFA, oui.
Il y a FIFA, ouais.
Oui.
Par exemple.
La MIFA, oui.
Il y a MIFA, oui.
Je danse le Mia. Je...
Oui, 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 non, on sent
Mia.
Bien que...
Mia réagit, hein, Mia réagit.
Mais les chiens réagissent, mais pas les chats. Les chats n'entendent pas, parce que moi j'avais étudié ça, j'avais un chat. Mais les chiens réagissent aux voyelles.
Rika, que... Rika. Rika aussi. Ça,
moi je suis bien là, moi je suis content. J'ai ce qu'il me faut, moi.
Oui. Eh bien écoute,
eh ben, je te souhaite une très belle journée.
Bah, merci beaucoup.
Et mettez-vous un peu de l'huile solaire s'il va faire très beau, Inja et toi.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Salut.
Bonne fin de journée, au revoir.
Qu'est-ce qui s'est passé, François Rollin? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, vous avez dit, est-ce que c'est pareil avec votre femme? Je n'ai pas reconnu ce François Rollin qui a toujours été si proche du sexe opposé.
Non, mais parce que là, c'était un homme qui nous parlait. Mais sinon, j'aurais pu dire aussi, une femme qui veut quitter son mari, un mari qui veut quitter sa femme, c'est la même chose, c'est symétrique. C'est-à-dire, le mieux, c'est de ne pas rentrer dans des explications qui vont stresser tout le monde. On s'en va, comme ça.
On va acheter
des allumettes.
Allumettes quelque déjà, part dans
beaucoup,
le massage.
C'est déjà stressant. Je vais chercher.
Qu'est-ce qu'on dit alors?
On dit rien. On dit même pas je vais acheter quelque chose, ni je vais rien acheter du tout. On s'en va. Comme
c'était
ça.
Les conseils intimes de François Rollin. Si, quand vous rentrez ce soir, l'autre personne qui était là ce matin est encore là, c'est qu'il n'a pas du tout compris les conseils. Donc, à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait le mieux en ce moment.
Kaori Ito, bonjour.
Bonjour.
Kaori Ito, vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe. Moi, c'est un monde que je connais très mal, la danse. Je ne sais pas regarder, hein, je n'ai pas la culture pour regarder un spectacle de danse, mais quand je vous ai vu danser la première fois, c'était dans Au revoir parapluie de James Tirey, et je trouvais que c'était d'une grâce et d'une limpidité extraordinaire. C'était fascinant, c'est comme qu'on écoute quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi on est subjugué. Et je trouve que vous êtes extraordinaire. Et là, vous êtes du 3 au 6 mai au Théâtre de la Ville et à l'espace Pierre Cardin pour un spectacle qui s'appelle « Je danse parce que je me méfie des mots ».
Oui, 3 au 11 mai.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut remplacer des mots par des mouvements?
Oui, ben, je pense que les mots sont remplacés par des mouvements.
En général?
En général, oui.
Et est-ce que vous, dans votre vie, c'est quelque chose aussi? Est-ce qu'il y a un langage des gestes que vous savez... Est-ce que dans la vie, vous savez voir dans des gestes des mots cachés?
Oui, je pense tous les jours, tout le moment.
Il y a des phrases d'ailleurs pour ce spectacle. Est-ce que vous dansez des phrases? Par exemple, là, pour parler de ce spectacle, c'est un spectacle où vous dansez avec votre père.
Oui.
Qui n'est pas danseur professionnel. Racontez-moi un petit peu.
Ça faisait 13 ans qu'on ne s'est pas parlé à cause de la distance. Donc après,
il est au Japon, votre père, hein?
Oui, il est au Japon toujours. Et quand on fait la tournée, il vient de Japon et je pense qu'on avait besoin d'un peu réconcilier entre nous.
Alors, on peut écouter d'ailleurs, c'est ça qu'on entend là, un petit fond musical qui est un moment. Donc, vous vous êtes pas parlé avec votre père parce que le langage des mots est une chose par laquelle vous n'arrivez pas à faire passer suffisamment d'émotions, de choses que vous avez à vous dire.
Ouais, je pense que quand j'étais petite, dès le départ, je pensais que je me méfiais des mots parce que je ne pouvais pas bien parler. Donc je remplaçais souvent mes paroles par des mouvements et la danse. Et je pense que c'est ça le moyen de communiquer pour moi.
Ça vous aidait à sortir du silence, en fait?
Ben, le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Silence, ça peut aussi être très violent au Japon quand on ignore quelqu'un. Ça veut dire on est quelqu'un. Donc, mon père, souvent, il ne me dit pas qu'il est heureux, il me montre. Il ne dit jamais qu'il est heureux.
Vous voulez dire que le silence est une forme de mépris dans votre culture?
Oui, ça peut être très violent quand on me dit rien. Ça veut dire que tu n'existes pas.
Alors, il y a aussi beaucoup de cultures, beaucoup de familles où le silence est installé pour mille raisons, des gens qui aussi n'arrivent pas à transmettre des choses parce qu'ils ont honte de leur passé. Est-ce que vous, en dansant, vous avez renoué quelque chose avec votre père, en dansant avec lui? C'est ça qui est stupéfiant, c'est que vous dansez avec un homme qui n'est pas danseur.
Oui, après, c'est vrai qu'il est sculpteur et il faisait du théâtre, en fait, il y a 50 ans. Donc pour lui, ça lui faisait peur au début, mais dès qu'il était sur scène, il est comme un clown, il est très drôle. Il fait du Michael Jackson, il fait rire tout le monde et j'ai l'impression que c'est vraiment sa nature. Et quand on le voyant danser, j'ai l'impression que je sais comment, pourquoi je danse comme ça. C'est très animal.
Alors il y a des phrases comme ça que vous avez mis en exergue de votre spectacle, ils sont censés, peut-être vous y répondez sur scène ou vous parlez à votre père, vous dites « Pourquoi tu me traites comme une princesse quand je reviens et tu me traites d'égoïste après ? Tu veux que je revienne au Japon définitivement ? Pourquoi Noël on mettait des dinosaures au lieu de sapins ?» Donc c'est une famille, une enfance assez excentrique au Japon.
Oui, un peu, oui. Oui, on était un peu spécial. Ouais.
Parlez-nous un petit peu, je veux savoir comment c'est une enfance japonaise. On est là avec vous, Kaori. Nous sommes, vous étiez dans quelle ville ?
À Tokyo.
On est à Tokyo, mettez autre chose, une ambiance à nous, cher Armel. On est à Tokyo, le matin se lève, racontez-moi comment se passe un rituel de matin japonais dans la famille Ito à Tokyo.
Le matin, on se lève très tard, nous... On était un peu en retard, mais le soir, on s'est bien amusé. On faisait la musique, on dansait jusqu'aux 3 heures du matin. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de vie comme des Japonais. Nous, on était un peu excentriques, comme vous dites. Il y avait des gens qui voyaient notre maison en passant devant, qui disaient « Mais comment ça se fait qu'ils habitent là ?»
Kaori, vous croyez que les mouvements peuvent remplacer les mots ? Moi, je crois qu'on peut faire passer des choses dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc, continuez à me parler, à me répondre, mais en japonais, s'il vous plaît, d'accord ?
Oui.
Très bien. À votre avis, quand les gens vont voir ce spectacle, ils en ressortent avec quoi ? Quand ils vont voir « Je danse parce que je me méfie des mots », vous voudriez qu'ils soient dans quel état ?
Mina san ga, yappari, kotoba de amari yenai koto wo... 私とお父さんとダンスを通していろいろ言い合っていることを見て、感情を感じればいいと思います。
Est-ce que c'est un c'est quoi le silence qui s'installe quand on danse? Est-ce qu'il y a des mouvements comme ça qui sont comme des cris？
叫ぶことっていうのはやっぱりその沈黙で叫ぶこともできると思います。
François。
Oui, j'aurais nuancé peut-être ce qu'elle vient de dire. Oui. Il y a quelque chose peut-être... Pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce type de chorégraphie, il y a peut-être quelque chose d'un peu définitif dans ce que vient de dire Kaori, non ?
Moi, juste dire à Kaori, on a l'impression que c'est une réconciliation sur scène, vous et votre père, ce spectacle, comme vous en parlez. Mais est-ce que votre père, il était d'accord pour que vous fassiez de la danse ? J'ai pas l'impression, non ?
Si, il était d'accord, il faisait toujours une imitation de tous mes spectacles.
Parce qu'il y a une rigueur quand même dans l'éducation des enfants japonais au départ. Moi, j'y suis allé un peu au Japon, j'ai vu que c'était quand même très très dur pour les enfants. Il y avait un cursus à vraiment faire, à réussir sa vie, non ?
C'est plutôt, en fait, c'est moi qui le embauche.
Ah, oui.
C'est ça qui le dérange parfois.
Kaori, une fois vous étiez venu quand on faisait un spectacle, vous nous aviez aidé tous à répéter.
Ouais, m'a fait travailler. Ouais.
Vous allez nous faire un petit peu travailler. Alors, je rappelle que le spectacle Kaori Ito, allez voir, c'est à l'espace Pierre Cardin ou au Théâtre de la Ville alors ?
Espace Cardin
du 3 au 6, allez-y, c'est vraiment stupéfiant.
11.
Même si, comme moi, on ne connaît rien à la danse, ça s'appelle Je danse parce que je méfie des mots. En attendant, venez tous debout avec Kaori. Là, Kaori, qu'est-ce que vous allez nous faire faire là ?
Donc, vous avez un diamant dans votre plexus.
On va mettre une musique un petit peu énergique pour un petit peu, on va se réveiller avec le diamant.
Le diamant dans votre votre plexus, c'est que vous faites briller le diamant par des projecteurs qui sont là.
Ok, on y va. Okay. Vous êtes là devant votre radio, vous avez un diamant. Attention tout le monde, laissez le diamant qui est dans le plexus, n'allez pas le vendre chez un bijoutier, il vous est utile. Allez, on fait briller, on y va.
Voilà.
Allez, ça y va. Kaori envoie du diamant, on est là, il y a même qui a même des rubis là, quand t'as Roland, je crois que c'est du toc. Allez, là il se passe des émeraudes, comment
c'est
ça s'appelle
comme
ce mouvement ?
Le diamant saute comme ça.
Le diamant saute, allez, faites sauter, on y va. Donc on bouge le torse, on bouge le plexus, on y va, on envoie l'énergie, on prend, on donne.
Ah c'est bon.
Je prends, je donne. Allez,
Et détendez mon nuque.
Détendez la nuque, ou la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais grâce à cette détente de nuque mutuelle, vous allez le rencontrer. Merci Kaori, on se sent déjà beaucoup mieux.
Je savais pas que j'étais joyeux.
On vous embrasse très fort.
Okay, merci.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Parce que François Rollin, c'est vrai que vous me disiez là, au séminaire ce week-end, qu'il y a une responsabilité à parler déjà dans la sphère privée, à parler chez soi. Parler seul, c'est une responsabilité. Parler en famille, c'est une responsabilité. Parler dans la rue, parler dans la sphère publique et parler au micro et surtout parler temps qui court, vous me disiez.
Eh bien oui, parce que c'est sûr que, par exemple, si on se reporte quelques siècles en arrière, au temps de Pépin le Bref, par
avant
exemple...
Avant le micro, hein, on parle voilà, en micro, voilà, avant l'invention du micro.
Eh bien précisément, c'est-à-dire que si Pépin le Bref avait parlé dans le micro, il aurait bien épaté tout le monde.
Oui.
Et c'est pourquoi il s'est abstenu de le faire.
Alors on connaît mal le ton de la voix de Pépin le Bref, peut-être pour le situer pour les gens, c'était quelqu'un qui parlait un petit...
Un peu perché, oui, un petit peu perché, un peu pointu.
Par rapport à Louis XI, c'est peut-être un peu, parce que Louis XI était plus lent... Louis XI était plus...
Alors lui, plus rapide, plus pointu, avec une toute petite pointe, c'est très curieux, d'accent méridional.
Oui, parce... mais alors il n'était pas né là-bas, mais il adorait y aller, et je sais qu'il avait... il aimait beaucoup une dame qui l'a influencé et qui était du sud de la France.
Eh bien, ce fut-il exprimé dans un micro que le monde en eût été bouleversé.
Alors nous qui avons la chance, non pas d'être Pépin le Bref, non pas d'être roi des Français, puisque personne ici ne prétend l'être,
mais
François,
d'être postérieur à l'invention du micro.
Voilà, alors nous on a cet avantage, mais pas ce titre, et donc il y a responsabilité.
Oui, nous devons d'être exemplaires.
Vigilants.
C'est-à-dire à chaque instant, au moment où je suis là avec vous devant ce micro, à chaque instant il faut que je me dise, est-ce que je suis en train de dire quelque chose de pertinent? Où est-ce que je suis en train d'endormir tout le monde?
D'endormir tout le monde, voilà. Voilà. Et puis il faut se dire, moi qui ai la chance d'avoir ce micro, alors que beaucoup de gens voudraient accéder à ce micro...
Qu'est-ce que j'en fais?
Qu'est-ce qui justifie que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre qui s'adresse aujourd'hui au micro?
Qu'est-ce que je veux donner? À qui je veux le donner?
C'est ça.
Pourquoi je veux le donner?
C'est ça.
Et peut-être aussi comment je veux le donner?
Voilà, vous me disiez donner, mais ce qui était beau dans votre idée, c'était donner pour recevoir. Il y a la notion d'échange à laquelle vous êtes très attaché dans votre livre. J'aime donner et recevoir aux éditions Ping Pong. Dites-moi, François Rollin, on parlait de Pépin le Bref, mais je dis bien aux auditeurs, attention, ne nous arrêtons pas là. On parle de l'histoire des rois de France, de Pépin le Bref jusqu'au micro.
Ah oui, bah il n'est pas le seul, mais il est emblématique.
Il est emblématique.
Ça, tous les journalistes sont d'accord là-dessus, il est emblématique.
Ça me revient, c'était... C'est Pépin le Bref. Vous vous rappelez? C'était un peu ça.
Oui, c'est ça. Oui. Quelquefois, j'ai eu l'impression que Jean-Dor Messon nous faisait une imitation de Pépin le Bref.
Il manque d'accent du midi, quand même, un peu.
Atmen, vous allez trop loin.
Bah, je vous le dis.
Ça tombe bien, il est 8h quasiment une. Voici Thierry Parek qui va nous sauver.
Pépin les Brèves.
Oh.
Donald Trump se dit prêt à rencontrer Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Alors, ceci dit, la situation autour de la Corée du Nord reste quand même assez vive. Hein, et le mot est faible. Deux bombardiers américains ont survolé la frontière. Selon la Corée du Nord, la péninsule est au bord de la guerre nucléaire. Pour la première fois de son histoire, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, modifie son programme politique. C'est en demi-teinte, en fait, ce que dit le Hamas. Le mouvement accepte un État palestinien limité aux frontières de 67, c'est-à-dire avant l'occupation israélienne en Cisjordanie, et insiste sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Mais, dans le même temps, le Hamas ne reconnaît toujours pas Israël. Voilà, cette annonce qui intervient alors que Donald Trump doit rencontrer son homologue palestinien Mahmoud Abbas cette semaine est qualifiée d'écran de fumée par l'État hébreu. À l'occasion du 1er mai, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé la convocation d'une assemblée constituante citoyenne pour rédiger une nouvelle constitution. L'opposition parle, elle, d'un coup d'État contre le Parlement. Le 1er mai en France, il a été marqué par de nombreuses manifestations hier dans tout le pays, notamment à Paris, où 80 000 personnes ont défilé hier après-midi selon les syndicats. Ce ne fut pas une déferlante comparable à celle du 1er mai 2002, mais quand même, les cortèges étaient importants et c'est d'abord le refus du FN et de ses idées qui a drainé une foule plus dense qu'à l'accoutumée. On notera que le cortège parisien, en marge des manifestations, a été marqué par des affrontements entre Black Bloc, ces activistes autonomes, et les CRS, des affrontements qui ont fait 6 blessés côté CRS, dont un grave. Le FN qui mobilise contre lui une quarantaine d'associations et syndicats de la culture, dont la CGT Spectacle, l'Association Française des Orchestres ou encore la Ligue de l'Enseignement appellent à un rassemblement citoyen contre le Front National ce soir à partir de 19h30 à la Philharmonie de Paris. On en est à plus de 1000 avocats qui ont signé un appel lancé vendredi dernier contre le FN. Parmi eux, plusieurs anciens bâtonniers du barreau de Paris ou encore des avocats emblématiques de la lutte contre les discriminations. Marine Le Pen qui était en meeting à Villepinte, en région parisienne, hier. Elle a qualifié Emmanuel Macron de candidat de la finance, mais ce n'est pas ce qu'on retiendra ce matin de son discours, non. Ce qu'on va retenir, c'est que Marine Le Pen a plagié, durant son discours, plusieurs passages d'un discours de François Fillon, et pas très vieux, le 15 avril dernier seulement, des propos repris mot à mot par la candidate du Front National. Il n'y a pas photo, quand on met les deux discours côte à côte, voilà, c'est mot à mot.
Oui, mais quelle est votre interprétation? C'est une erreur? C'est volontaire? C'est une blague? Maintenant, elle dit que c'est un clin d'œil. Enfin, Philippot dit que c'est un clin d'œil, mais où est le clin d'œil?
C'est bien de préciser.
préciser, elle dit que c'est un clin d'œil à, effectivement, à l'électorat en fait, de François. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est un clin d'œil à l'électorat de François Fillon. Pour dire, voilà, je suis capable de reprendre les propos de François Fillon, parce qu'on est, on pense un peu les mêmes choses, quoi. Ça veut dire à peu près ça, non?
Oui, oui, François. Hein,
non, mais c'est étrange tout de même, parce que à ce moment-là.
Mais ça prend pas. Hein, pas...
On ne reprend pas les mêmes mots à ce moment-là.
Oui, sans doute, mais ça, elle s'est faite avoir hein, par un média alternatif qui a repéré ça et qui l'a dévoilé, parce que c'est pas elle qui l'a dit, bien sûr.
Les grandes discussions sur les contenus des discours de Marine Le Pen avec François. François Hollande, sortez du journal.
Emmanuel Macron, lui, était en meeting à la Villette à Paris. Le candidat du mouvement En Marche a notamment qualifié Marine Le Pen de candidate anti-France. Et un nouveau sondage, à 6 jours du second tour, place Emmanuel Macron largement en tête du scrutin avec 59% des intentions de vote contre 41% pour Marine Le Pen. Le tarif des consultations des médecins passe aujourd'hui de 23 à 25 euros. Chaque 1er mai, en fait, marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures de ce type. 2017, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Il y a aussi une baisse du prix du gaz de 3,3% en moyenne ou encore la mise en place d'une taxe de séjour par Airbnb dans 31 nouvelles villes françaises. Et puis le Real Madrid va recevoir ce soir l'Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est du foot. Les deux clubs vont s'affronter pour la 4e fois consécutive dans cette compétition et l'autre demi-finale, elle opposera demain Monaco à la Juventus de Turin.
Alors ça, là, tout à coup, hein, là, François...
Non, mais pour les médecins, là, moi, je paye 60, je comprends pas, en fait.
C'est quoi
là, c'est 60 euros quand autres, je vais chez le toubib, on me dit que c'est 25.
Mais non, mais t'es plus malade que les autres, je pense, à te mettre.
Il y a des médecins qui sont pas conventionnés, vous êtes à Paris, vous allez être remboursé, je veux dire, je ne sais pas.
Ouais, bah, je voulais savoir, parce que...
Peut-être vous allez voir un spécialiste aussi.
Ah, peut-être, alors.
Ça, c'est plus cher.
Bon, d'accord.
Un spécialiste des toc-toc dans votre genre.
Ah, d'accord.
Paf.
Ça va du coup, ça malade, vous voulez dire que je, suis, que je me fais avoir et en plus que je suis malade. Et voilà. Bon, bah je vais boire un café.
Non, reste là. Reste avec nous, Tati. On va voir Jacques Souvent dans la rue. Alors, Jacques Souvent, il est le matin, il part. Pendant que nous, on est au chaud, il est au froid. Pendant que nous, on demande des cafés, lui, il l'épée. Et là, il est avec qui? Allô? Ah bah, il veut plus parler. Bon, Jacques Souvent. Génie, on n'arrive pas à voir Jacques?
Ou alors il est avec Kaori Ito
et elle danse.
Et il nous oppose un silence dansant.
Ah, c'est beau. Il nous oppose un silence dansant. Je rappelle ce mot de code. Donc là, on est avec un téléphone qui ne répond pas. Le silence qui suit est encore du Jacques Souvent. Allô ?
Non.
Non ? Jacques Souvent n'a pas répondu. Jacques Souvent est resté muet face à un téléphone sans pile, sans batterie, ou peut-être une absence d'envie simplement d'échanger, de communiquer. Peut-être que dans ce silence, il faut voir, non pas du mépris ou un refus, mais peut-être une question, François Rollin, que nous pose Jack.
Oui, et puis aussi cette incertitude sur l'endroit où il se trouve précisément. Alors il semble que ce soit en région parisienne, mais c'est très vague, c'est grand la région parisienne. Il y a des endroits peuplés de d'arbres.
Il est peut-être dans un endroit forestier, peut-être dans une cave, peut-être dans un tunnel. Peut-être qu'il a ingurgité son téléphone, le prenant pour un sandwich jambon beurre. Allô ?
Je ne me rappelle pas.
Un petit café ?
Oui, un petit café. Noisette.
Noisette, noisette, on est au 76, je suis avec Benjamin, je suis avec Mila qui va à 476 pour aller au boulot.
À l'école.
Et Benjamin, il est en train de rentrer voir son pote parce qu'il a oublié une clé pour le local, pour répéter.
Exactement, c'est ça, oui.
Qui est la maman de qui? Benjamin est le père de Mila qui est la mère de Benjamin?
Ouais, bah je sais pas. Ça vous dit qu'il soit votre fils, deux secondes?
D'accord.
Non mais j'ai cru que vous alliez à l'école.
Non, elle veut pas,
Mila, j'ai l'impression que votre rire pourrait casser des verres de cristal. Il est en... C'est cette fameuse note musicale très difficile.
Non, elle est fatiguée, elle a le neurone courbaturé, elle veut pas parler. Et Benjamin aussi a le neurone complètement en matraque.
Ça va, moi je me réveille lentement, voilà, c'est tout. Matraque.
Qu'est-ce qui se passe dans ce 76? Je sens que ça va être chaud l'ambiance dans le bus. Est-ce que c'est un des bus les plus marrants de Paname, le 76? Est-ce qu'un trajet, un éclat de rire? Quelle opération que... Qu'avait lancé
la RATP.
C'est sympa,
c'est que quand tu le prends, tu vois tout le temps destination Louise Michel. Moi, ça me parle.
Ah, c'est beau d'aller à Louise Michel, oui.
C'est très beau. Voilà.
Quels sont les autres titres qui vous inspirent dans Paris, à part Fille du Calvaire, évidemment, qui ne fait rêver personne?
Alors là, en ce moment, je mets un peu mon inspiration de côté, vois-tu, pour aller voter dimanche.
Oui.
Je vais y aller, je vais mettre le bon bulletin, et puis je vais reprendre l'inspiration lundi. Voilà.
On est en apnée jusqu'à dimanche ?
Voilà, moi je suis en apnée jusqu'à dimanche et puis après on continue quoi.
Après on ressuscite, là c'est une semaine quoi dure parce que tu t'es pas t'es, parce que quoi parce que tu as peur parce que tu quoi ?
Ah non pas du tout, parce que je vais aller voter Macron, que ça me fait chier mais qu'en même temps j'ai pas le choix parce que je pourrais pas me regarder dans la glace si je mets pas un bulletin pour contrecarrer Marine Le Pen, voilà.
Et alors
c'est la réalité. Donc la réalité, c'est que c'est pas du tout ce que j'ai envie de voter, et en même temps, j'ai le sentiment de pas avoir le choix et de devoir faire un devoir civique en y allant, ce que je vais faire. Et puis après, on verra bien lundi comment on fait bouger les choses.
Bon bah tu souffres pas trop alors quand même.
Bah ça va être dur hein, quand même. Tu sais, j'ai peur de l'isoloir. J'ai peur de ce moment dans l'isoloir où je vais avoir le bulletin dans les mains et où tout d'un coup les choses vont se concrétiser. Et où je vais me dire, oh putain que ça fait chier.
Ah merde, môme, fais pas de conneries. Fais pas de conneries.
Oh merde,
attends.
Oh putain.
Non. Jack, accompagnez-le dimanche. Le môme va faire une connerie. Ne le laissez pas seul dans
l'isoloir. Mais j'ai presque envie que quelqu'un me tienne la main.
Oui, ne le laissez pas seul dans l'isoloir. Voilà. Non.
Je vais appeler ma mère, tu vois. Benjamin, allez, viens mon petit.
Oh non, c'est rare au contraire que les choses soient si simples et si claires, me semble-t-il. Alors Benjamin, écoute, bon 76, bon Louise Michel.
Merci.
Et d'ici dimanche, vie quand même.
Non hein. Mais c'est bon, je vais faire de la relaxation, tout va aller.
Très bien, très belle journée. Salut.
Tout va. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Atmen, là, ça va être l'animal du mardi par François Rollin. Mais est-ce que c'est assez Nova ? Vous avez l'impression que c'est Nova ou pas ?
C'est purement Nova.
Parce que c'est un peu...
Oui, moi je trouve, ouais, parce que c'est un truc qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais.
Bon, c'est assez... je peux le mettre dans l'émission.
Oui, mais est-ce que ça va être bien ?
C'est ça.
Parce qu'il y a des animaux qui sont pas... Il y a des beaux animaux du mardi.
Oui.
Et puis des animaux un peu...
Non, François, moi, je préfère... on préfère... C'est par amitié, si vous voulez. Est-ce que c'est... Déjà, donc, vous êtes Nova ?
Oui.
Ça, vous le signez ?
Oui. Ah oui, et puis même terriblement Nova, puisque ce matin, nous allons parler NAC. Vous connaissez cet acronyme qui désigne les nouveaux animaux de compagnie.
Ah non.
C'est-à-dire les animaux de compagnie appartenant à d'autres espèces que le chat
comme
ou le chien.
Comme le serpent. Voilà. Ou...
Les NAC, on dit ça. Alors, le nouvel animal de compagnie que je vous propose aujourd'hui, c'est le corail.
Le corail ?
Alors, le corail a longtemps été considéré comme un minéral, puis comme un végétal, mais depuis le célèbre naturaliste Buffon, on sait qu'il s'agit bien d'un animal de l'embranchement des cnidaires. Le corail, comme animal de compagnie, avantage et inconvénient. Alors avantage, le corail est un animal très calme et très silencieux. Il convient parfaitement aux personnes âgées qui sont sensibles aux atteintes de l'environnement. Depuis l'aube de l'humanité, on n'a pas recensé un seul cas de corail s'attaquant à un papy ou à une mamie. D'accord ? Le corail est parfaitement statique et autonome. Il n'y a pas nécessité de l'emmener en promenade. Il n'y a pas besoin de le toiletter. Et de surcroît, contrairement au chat, le corail n'est pas très friand de câlins. Vous pouvez même vous abstenir de lui adresser la parole, il ne s'en portera pas plus mal. Vous voyez ? Autre avantage, le corail ne demande pas à être nourri, il trouve lui-même sa nourriture dans l'eau qui le baigne. Et là, ça nous amène aux inconvénients, puisqu'en effet, le corail vit dans l'eau salée. Hein ? Il faut donc prévoir un aquarium d'environ 3 mètres cubes, donc 3 tonnes d'eau, donc un plancher résistant, et tout le monde n'a pas un plancher résistant. Deuxième inconvénient, il faut défendre le territoire du corail contre les incursions de l'acanthastère pourpre, cette espèce d'étoile de mer carnassière de couleur vive, qu'on appelle également couronne du Christ, et qui se nourrit principalement de coraux. C'est pourquoi, la semaine prochaine, nous verrons comment fabriquer soi-même, en matériaux recyclés, une barrière à acanthastère équipée d'un dispositif de vidéosurveillance directement relié au commissariat du 18e. Voilà.
Oui, c'est bien. On est droit dans nos bottes, on est propre. Hein, on est moins con. On est plus ouvert sur le monde, on est bien,
on est corallien.
On est corallien, moi je me sens, François, vous m'avez ouvert les portes de la perception. Je vous remercie et je crois que l'auditeur aussi, puisque le courrier arrive en masse depuis cet animal du mardi, il y a du courrier jusqu'à jeudi. Merci champion. Dites-moi, pendant que Marie-Missé s'installe, notre ami Nader Boussandel est passé nous voir. Nader,
bonjour.
Il paraît que vous allez aux impôts, là ?
Ça ouvre à 8h30, donc je ne voudrais pas être en retard pour un super rendez-vous.
Vous avez rendez-vous à 8h30 aux impôts pour faire quoi ?
Pour en parler un petit peu, pour échanger un petit peu sur...
Vous allez demander un truc ?
Oh, un petit échelonnement, c'est pas grand chose.
Comment on fait en fait quand on demande un échelonnement aux impôts ?
Bon, d'abord, on est très gentil avec la personne qui nous reçoit.
Ouais.
Dans un premier temps. Et ensuite, on essaie de lui expliquer deux, trois petites choses qui nous empêchent un peu de payer normalement.
Et donc, on anticipe somme, ou vous anticipez avant ou une fois que vous êtes vraiment.
Alors,
vous avez
comme vous pouvez le constater, je suis venu avec une sacoche,
hein, oui.
munie de tout un tas de papiers à l'intérieur.
C'est vrai.
Qui me permet de justifier, mais vraiment très gentiment, parce qu'il faut toujours rester très sympa.
Il y a une tentation de s'énerver ?
Oh, ça, oui, il y a des moments où on pourrait s'énerver.
Donc, vous n'allez pas vous énerver, Nader ?
Non, hein, non, pas du tout. Non, non,
et vous, allez, vous savez à qui vous avez rendez-vous ?
Alors, je ne connais pas encore la personne, mais elle s'appelle Nathalie.
Bon, bah, ça va bien se passer.
C'est une femme, déjà.
Et Nathalie, voilà, c'est voilà. Pas sûr. Ahmed, ne soyez pas segmentant.
Bah, pourquoi ?
Chacun choisit. Je veux dire, on peut s'appeler Nathalie, on choisit. Vous n'avez pas...
Jamais vu.
Quoi qu'il dise. Bon, Nader, ça va bien se passer, mon
vieux. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, je serai toujours là pour vous en reparler.
Donc, rééchelonnement...
De toute façon, on n'a pas le choix.
Vous voulez remettre à quand ou sur combien de temps, vos impôts ?
Alors, je voudrais échelonner au maximum. Je sais qu'il y a plusieurs tranches. Ça peut aller de 3 mois jusqu'à 18 mois.
Voilà. Et si ça va jusqu'à l'annulation générale, vous n'irez pas chialer, quoi.
Ah non, non, je n'irai pas chialer. Au contraire, je serai très, très, très content parce que ça m'apportera énormément de choses pour l'avenir.
Bon, bah, bon rendez-vous.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'en avoir parlé avec vous.
Ça y est, vous êtes préparé, vous allez être très bon. C'est bon.
Merci beaucoup.
Voilà Marie Misset. Salut.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Ah, il est bien celui-là. Ah, c'est la première fois. Il est je ne le vois pas dans le catalogue où il est ce bonjour-là.
Il est juste après le bonjour.
Ah oui, c'est bien, on a choisi le bon.
C'est pas une surprise hein, pour personne. Si on a ouvert les journaux ce matin, le spectre du Front National est encore aujourd'hui évidemment à la une. Selon les journaux, la résistance prend différentes formes. En édito, La Croix, qui précise qu'ils n'ont pas l'habitude de se prononcer politiquement, qu'ils ne l'ont fait qu'une fois, c'était en 2002. Eh bien, La Croix écrit « L'abstention, ça ne suffit pas ». Ils appellent donc à voter Macron, un candidat qui ne suscite pas leur entière adhésion, mais à leur soutien. Du coup, ils se fendent à l'intention des oublieux d'une histoire du Front National, fondé à la base sans Jean-Marie Le Pen, par des opposants à De Gaulle de deux générations, ceux de l'Algérie française, de l'OAS, et ceux de la Seconde Guerre mondiale, côté collaboration, parmi lesquels d'anciens SS. Des origines anti-gaullistes qui n'auront donc pas fait flancher le dit gaulliste dit Nicolas Dupont-Aignan, dont le ralliement, nous dit toujours La Croix, montre surtout, au-delà de son faible apport en voix, que Marine Le Pen n'est plus isolée. Pourtant, en 2011 encore, Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, rendait hommage à Jean-Bastien Thierry, membre de l'OAS, qui avait tenté d'assassiner De Gaulle. Le FN n'est plus un parti d'exception, c'est ce qu'on peut également déduire de la une du Figaro, qui estime qu'avec 59% des intentions de vote, Macron est largement en tête. Alors que dans le même Figaro, même des électeurs frontistes estiment que si elle réussit à avoir 40% des voix, ce sera déjà énorme. Pour la une du Figaro, ces 40% semblent déjà actés. On s'habitue à tout et on a grand tort. C'est comme ça que commence le numéro spécial de Libé anti-FN. Pourquoi ? C'est toujours non, avec une grande tête de Marine en une, même si on se dit que ce n'est pas les lecteurs de Libé qu'il faut convaincre. Du coup, les Échos, eux, en appellent à l'homo economicus et font intervenir des chefs d'entreprise pour sonner l'alarme contre le FM. Certains pourraient quitter la France, mettre la clé sous la porte. Et puis, plus loin dans le journal, on nous explique à quel point l'Allemagne est Macron-man, fan de Macron, qui incarne une France qu'ils ne connaissent pas, audacieuse, jeune, entrepreneuse. Pas sûr non plus que c'est en faisant intervenir les chefs d'entreprise et l'Allemagne, ennemi de Marine Le Pen, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, que les non-convaincus seront convaincus. La Croix évoque, eux, les médecins. La préférence nationale est contraire à la déontologie et au serment d'Hippocrate, lit-on dans le journal. Nous affirmons que nous continuerons à soigner tout le monde. Devant un discours de Marine Le Pen qui affirmait vouloir d'un délai de carence de 2 ans pour accorder les soins aux étrangers en situation irrégulière, un médecin s'était emporté sur Internet, nous rappelle La Croix. Jérôme Marti, d'origine italienne, avait écrit « Marine, je suis médecin et je ne peux pas te laisser parler à notre place parce que nous soignerons tout le monde. » Et quelques pages plus loin, toujours dans La Croix, on nous donne à lire un beau portrait, celui de Julien Bélier, architecte qui dirige le 6B à Saint-Denis et qui s'est spécialisé depuis son diplôme dans l'architecture pour les précaires. Après un travail de fin d'année sur les camps de Rome, qu'il a aidé ensuite à réorganiser, il est persuadé que l'étude des bidonvilles à Johannesburg ou au Kenya peut aider à comprendre des choses sur les villes. Fabriquer la ville, ce n'est pas construire des murs, dit-il, mais construire un sens autour du bien commun. Et puis, le meilleur argument anti-FN aujourd'hui vient peut-être d'un portrait tout en douceur de l'humanité qui parle d'un homme très précaire,
de 71 ans et il peut répondre à cet électeur frontiste dans Libé qui dit « on n'a jamais essayé le FN et d'ailleurs c'est pas irréversible ». Eh bien, prenons le portrait de Daniel, 71 ans, qui a pris une année sabbatique à l'âge de 40 ans. La rupture sera plus profonde qu'il ne pensait. Il ne s'est rien passé, avoue-t-il. J'ai bouffé mes économies et puis plus rien. Daniel s'effondre et entame alors 20 ans de galère. Ça, c'est un portrait dans l'UMA. Et puis alors, sur Macron, eh ben, il n'y a plus grand-chose à lire.
Merci Marie Misset.
7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Cette heure, 9h, plus près de toi.
Avant le journal de Thierry Paret, nous sommes avec François Rollin. François Rollin, professeur de bonheur, hein, colporteur de joie.
Vendeur d'étincelles, comme j'aime à m'appeler.
Accompagnateur de rêves, caresseur d'oreilles. François Rollin, vous aimez de bon matin aller quinca le long des chemins pour apporter un peu de joie à l'auditeur et à travers lui l'être humain.
Oui, je dis aussi souvent que je suis un peu l'explorateur des prairies. Ces prairies où fleurissent coquelicots et marguerites.
C'est vrai, vous le dites, c'est même écrit là.
Lorsque le printemps arrive. Et je crois que l'être du 21e siècle oublie d'explorer les prairies, et j'allais dire d'explorer sa prairie.
Bien sûr.
Parce que ce qui compte, et la musique que nous entendons nous le rappelle, c'est notre prairie intérieure.
Qu'est-ce que vous leur avez cultivé, votre jardin?
Qui est peuplé de fleurs et de notes à la fois.
Bien entendu.
Et c'est ces coloris multiples qui nous amène à une page
au journal.
De publicité.
C'est dans, la bouse de vache qu'éclosent les plus jolies fleurs, vous me disiez aussi. Tiens, voici le rappel des titres. 8h31-38, on m'a dit.
Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus qu'une puissance industrielle, agricole ou militaire. Ces mots, prononcés par Marine Le Pen hier lors d'un meeting à Villepinte en Seine-Saint-Denis, ne sont pas de la plume de la candidate du FN. Comme trois autres passages au moins, ils viennent d'un discours prononcé mi-avril par François Fillon. Cette copie, quasi conforme même, a été repérée par Ridicule TV, c'est un compte Twitter opposé à Emmanuel Macron, derrière lequel se cachent des militants du candidat des Républicains. Le FN parle, lui, d'un clin d'œil assumé en direction des électeurs de François Fillon, mais n'avait rien dit à son public. Le FN qui mobilise, contre lui, une quarantaine d'associations et syndicats de la culture, dont la CGT Spectacle, l'Association française des orchestres ou encore la Ligue de l'enseignement, appellent à un rassemblement citoyen contre le FN ce soir à partir de 19h30 à la Philharmonie de Paris. Un nouveau sondage, à 6 jours du second tour, place Emmanuel Macron largement en tête du scrutin avec 59% des intentions de vote contre 41 à Marine Le Pen. Le 1er mai en France, il a été marqué par de nombreuses manifestations hier dans tout le pays, notamment à Paris où 80 000 personnes ont défilé selon les syndicats. Le cortège parisien a été marqué par des affrontements entre Black Bloc, des activistes autonomes et des CRS. Affrontements qui ont fait 6 blessés côté CRS, dont un grave. À l'occasion du 1er mai, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé la convocation d'une assemblée constituante citoyenne pour rédiger une nouvelle constitution. L'opposition parle, elle, d'un coup d'État contre le Parlement. Bien que Donald Trump se dise prêt à rencontrer Kim Jong-un, la situation autour de la Corée du Nord reste extrêmement vive. Deux bombardiers américains ont survolé la frontière. Selon la Corée du Nord, la péninsule est au bord de la guerre nucléaire. Pour la première fois de son histoire, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, modifie son programme politique. Le mouvement accepte un État palestinien limité aux frontières de 67, c'est-à-dire avant l'occupation israélienne en Cisjordanie, et insiste sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Pour autant, le Hamas ne reconnaît pas Israël et cette annonce intervient alors que Donald Trump doit rencontrer cette semaine son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Et cette annonce est qualifiée d'écran de fumée par l'État hébreu. Et puis le Real Madrid va recevoir ce soir l'Atlético Madrid. C'est du foot, c'est de la demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs vont s'affronter pour la 4e fois consécutive dans cette compétition. C'est exceptionnel. L'autre demi-finale, elle opposera Monaco à la Juventus de Turin. Ce sera demain soir.
C'est bizarre parce que je trouve que vous le dites spécialement bien, Hamas, parce qu'il y a des gens qui disent Hamas, il y a des gens qui disent le R, et vous, vous avalez le R. C'est bizarre. Enfin, je dis rien. Je trouve que vous le dites spécialement.
Mahmoud.
Comment vous dites
Mahmoud Abbas? Je ne dois pas le prononcer.
Non, non, je dis que c'est très bizarre. Et aussi, je trouve que quand vous dites FN,
vous
le dites avec un tout petit sourire. C'est bizarre. Il y a certains mots qui dessinent un portrait en creux.
Il cligne de l'œil quand il dit Dupont-Aignan aussi.
Oui, quand vous dites Dupont-Aignan.
Vous clignez de l'œil.
Et vous, quand vous voulez, vous faites la liaison, vous dites Dupont-Aignan.
J'ai jamais su dire Dupont-Aignan.
Aignan ou Dupont-Aignan, du côté du pont tout court, en fait.
Dupont-Aignan, non ?
Mais on dit Dupont tout court, je pense, non ?
Non, c'est vrai que sur un nom propre, il n'y a pas tellement de raisons de faire la liaison.
Mais quand vous allez dîner chez les Dupont-Aignan ?
Bah, je dis Nico, moi.
Alors, bah oui, c'est tout simplement.
On dit Nat.
Ah, je vous tiens, je l'aurai.
Bonne journée.
Je tiens, voilà. Oui ?
Moi, je vous connaissais. Je ne connaissais pas, en fait. Je ne vous connais pas, en fait. Bah non. Moi, je me suis trompé.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais. Bah, bon. Je ne savais pas que j'étais à l'antenne.
Ben non, vous n'y êtes pas.
Ben non, je ne suis pas du tout ce qui me semblait.
Et si vous y étiez, vous en feriez quoi ?
Oui, on en parlerait un petit peu.
De ?
Je sais pas. Du monsieur là que je viens de croiser, que je pensais que je le connaissais. Je ne le connais pas en fait.
Vous pensiez que c'était qui ?
C'était un voisin que je connaissais, je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais,
et c'est pas lui ?
Sa petite canne, et c'est pas lui, non. Mais il pensait qu'il me connaissait aussi.
Mais c'était sa canne ?
Mais... Bonjour madame.
C'est pas la même personne avec la même canne ?
Bah si, je pensais que c'était lui avec la même canne. Il a les mêmes lunettes.
Mais c'est peut-être les lunettes et la canne et c'est pas lui derrière.
Bah oui.
Il a pris les cannes et les lunettes de celui que vous connaissiez ?
Bah peut-être.
Mais demandez-lui.
Il est parti, c'est trop tard là. Mais maintenant ça me met dans le doute, j'ai envie de me lever pour aller le voir.
Vous étiez assis ?
Bah oui, je suis assis à la terrasse du café là.
Mais vous prenez des consommations ?
Non, oui, un petit café. Mais surtout, j'étais en train de noter les répliques des gens qui passaient. Donc je les ai notées un petit peu. Ça vous intéresse ?
Oui, ça m'intéresse.
Alors ce matin, il s'est dit bonjour.
Bonjour, oui, ça tout le monde le dit. Bonjour, oui.
Voilà, bonjour. Il s'est dit aussi. Alors moi, je veux bien, mais on se donne la main.
Moi, je veux bien, mais on se donne la main, oui.
Ensuite, il y a eu Madame, vous avez un euro.
Ça, c'est pas à vous que ça s'adressait.
Ensuite, on a eu c'est dégriffé.
En parlant d'un produit, d'une robe.
Voilà. Ensuite, on a eu on va aller prendre une douche.
Mais à qui s'était proposé ça ?
Je ne sais pas. Ça, c'était là. Il y a eu aussi peut-être mardi, on verra.
Mais vous avez entendu tout ça ?
J'ai entendu tout ça, oui.
Mais de la même bouche, de la même personne, de la même conversation ?
Non, pas la même personne, non.
C'est un collage ?
C'est une espèce de collage de gens qui passent devant la terrasse, là, oui. Ah oui, c'est pratique pour couper les têtes, ça, j'ai eu.
C'est pratique carrément. Pour couper les têtes ? C'est quoi ? Il y avait une photo d'une guillotine ?
Non, je crois que c'était un gamin qui est passé avec une espèce d'épée. Et j'ai eu aussi, elle m'a dit pour rien, je sais pas comment vous l'avez trouvé. Tu as l'air perplexe aussi.
Oui.
Ou alors j'ai eu aussi, alors t'es pas morte ?
Oh la vache, oui. Et alors la personne était morte ou pas ?
Elle était vivante. Bonjour.
Mais arrêtez de dire bonjour à des gens qui ne vous répondent pas.
Je ne sais pas, j'essaye de... Oui ? Tu vas à l'école ?
Pourquoi on a vos questions et on n'a pas les réponses ?
Parce que là, c'est la béance, c'est le vide entre la petite table de la terrasse.
Vous ne faites pas partie de ces gens qui gardent le micro pour eux ?
Ça doit être ça.
Qui refusent de faire circuler les pensées, les paroles ? Les idées,
monsieur,
les sentiments.
On se connaît pas. Non, on se connaît pas non plus. J'essaie de rencontrer quelqu'un que je connais. Bonjour, monsieur. On se connaît pas, par hasard. Non. Vous êtes sûr ?
Maintenant, c'est fait. Maintenant, oui.
Approchez. Parce que c'est marrant, ce monsieur, il a le chien qui le tire d'un côté, sa femme qui le tire de l'autre. On se connaît ?
Non, on se connaît pas.
Vous êtes sûr ?
Oui.
Mais peut-être que maintenant, ça, vous allez vous connaître.
Je vous écoute.
Vous m'écoutez ?
Oui.
Vous avez entendu des choses bizarres ce matin ?
Non.
Pas une petite phrase que vous avez entendue ce matin en sortant de chez vous ?
Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu de voix intérieure qui m'ont parlé.
Extérieure ?
L'extérieur non plus, à part vous.
C'est vrai.
C'est sa première voix du matin.
J'ai entendu quelqu'un qui vous a dit on se connaît.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous sortez de l'immeuble.
Je sors, oui. J'ai pas encore pris mon café, je suis pas encore réveillé.
Cette petite voix éraillée, qu'est-ce que c'est ? C'est 15 ans de tabagie ?
Non, c'est une tumeur qu'on m'a retirée qui me donne cette belle voix de tumeur que je n'ai jamais fumé de ma vie.
C'est vrai ?
Ouais.
Vous n'êtes pas chanteur, ni rien ?
Rien.
Que vous avez ce petit habit en cuir, ce petit chapeau ?
Eh ouais. On reste jeune.
Et votre femme avec son ombrelle ?
Ouais, avec son ombrelle, oui. Vous voulez quoi, là, Mathieu ?
Vous vous rencontrez.
C'est vrai ?
Je vais parler un petit peu avec vous, on peut prendre un petit café.
Si vous offrez le café, il n'y a pas de problème.
Ah, c'est chouette.
Venez, avec votre femme.
Avec votre femme, avec son ombrelle.
Et le chien.
Le chien avec pas de tabagie, avec une tumeur, et puis la vie continue. On prend un café, on sourit, tout est bizarre, tout est normal, tout va mal, tout va bien. On garde le micro et puis on le tend de temps en temps, des questions, des réponses.
Vous avez travaillé tous les deux ?
Tout est bizarre, tout est normal. On se rencontre, on se paie un café, on sourit, on s'assoit, on reconstruit. Tout est bizarre.
Le petit cœur, c'est vous qui l'avez offert ?
Tout est normal. Un petit cœur, si tu me l'offres le café, c'est bon. Et ta voix, elle est raillée, ouais, la vie m'a un peu abîmée, m'a un peu fracassée. On n'en sortira pas indemne de cette vie, mais on l'aura vécue, on se serait un peu froissé la voix, sali les doigts. On aura des petites rides au coin, des yeux. On aura souri, on aura pleuré. Tout est bizarre, tout est normal. Asseyez-vous, le café c'est pour moi. Salut.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Vous étiez pas à te mettre sur le bateau de Gilbert Collard à Aigues Mortes ?
Si, j'y étais.
Ah oui ?
Oui, j'y étais, ouais.
Mais rien de politique, vous étiez pour
non,
la pêche.
J'ai pris un bateau parce que je voulais partir à la pêche, comme ça, aller ramasser des oursins, puis après des poules. Ouais. Et j'arrive sur le bateau, puis il y avait du monde.
C'était très étonnant, ces images-là.
Ils étaient tous en ciré.
Oui,
mais en même temps, je fais la confusion avec le fait que Atman nous disait à Rantaine qu'il n'est pas assez utilisé. Et j'avais envie de lui parler avec mon cœur, de lui dire, mais vous n'êtes pas utilisé, vous n'êtes jamais utilisé, Atman. Édouard n'est pas un utilisateur. Édouard est dans le partage.
Donc, c'est ça.
Vous voyez, ce matin, vous n'êtes pas assez partagé.
Oui, même si je prends la grosse part, ça ne veut pas dire que les autres... Non,
bien sûr. Non, bien sûr. Vous laissez mais les miettes, ce sont vos miettes.
Les miettes, c'est... Oui. La biscotte, merci.
Vous voyez, là, on vient de vous entendre, par exemple. Vous dites pas, voyez, là vous
pourtant, êtes... je suis là, je me lève, je viens, je suis là dans mon coin, je suis prêt à tout.
C'est ça qui est important.
Oui,
mais... Hein? Pourquoi mais... Parce que vous voulez qu'on compte les mots. Alors, Roland a dit plus de mots que moi ce matin, il serait donc plus important. Oh là là,
non, ce que je veux dire, c'est quand on n'utilise pas les gens, des fois, ils se rebellent et puis ils font des conneries.
Oui, mais
ils vont signer avec d'autres partis.
Vous voyez, Atman.
Ils s'allient avec d'autres gens.
Quand vous avez dit, là, je suis prêt à tout, c'est inquiétant.
Bah oui.
Vous inquiétez l'auditeur, quelqu'un qu'on sent prêt à tout pour intervenir au micro, ce n'est pas du tout rassurant.
Ah oui, moi je voulais dire une autre petite chose, sérieusement, parce que j'entends vraiment depuis quelques jours plein de gens qui disent « je vais aller voter Macron en me pinçant le nez ». Et j'ai envie de leur demander, est-ce que ce n'est pas un petit peu beaucoup quand même, se pincer le nez ? C'est-à-dire que si on en est à se pincer le nez pour voter pour Emmanuel Macron, qui me semble avoir un casier judiciaire tout à fait vierge, est-ce qu'on ne va pas passer notre vie avec le nez pincé ? Pincer le nez pour voter Macron, vraiment. C'est comme, à la télévision, j'ai vu Patrick Sébastien, je me suis pincé le nez. Non, t'aimes pas, moi non plus. Bon, mais pincer le nez, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce d'outrance et de complaisance dans cette outrance verbale.
Moi, absolument.
Voilà, je pense qu'on peut voter Macron à contre-cœur, ça c'est une expression qui me semble... Plus juste.
Plus légère. Ceci dit, vous venez avec des petites pinces à linge quand vous venez à l'émission, ça n'est pas contre moi.
Ce sont des pinces à vélo.
Ah d'accord, ça n'a rien à voir, merci. Mettez un petit générique pour Juliette Pagès, s'il vous plaît. Juliette Pagès, vous êtes venue nous parler de quoi ce matin ?
Alors ce matin, je suis venue...
parce que vous avez vu, ça permet une liaison. Ouais. Comme ça, les gens digèrent ce que vous avez raconté, qui était fort, et en même temps peuvent rebondir.
D'ailleurs, la liaison est pas mal avec Emmanuel Macron, parce que moi, je voulais parler des start-up dans l'entrepreneuriat.
Oui, vous êtes macroniste parce que... Alors attendez, je regarde si vous appartenez à un empire de presse et tout ça, parce que s'il y a des trucs sur Nova appartenant à Mathieu Picasse, forcément, on nous a dit de dire du bien de Macron. Je lis ça aussi, c'est formidable.
Non,
je reçois aussi des injonctions et les phrases que je dois dire aussi, le patronat me les envoie. Pardon, Juliette Pagès, vous allez nous parler de cette nouvelle mode, je crois, des incubateurs de start-up, de ces lieux où plein de gens viennent travailler ensemble.
Alors, c'est pas vraiment un incubateur dont je viens vous parler, c'est plus effectivement ces espaces de coworking en fait qui mettent donc en commun plusieurs startups qui ont des projets un peu autour de la technologie mais dans une visée sociale, sociétale. Donc moi je suis allée visiter un truc qui s'appelle le Liberté Living Lab, mais il y en a plein d'autres. Et en fait c'est toute cette idée de réconcilier un petit peu le social et le business. C'est vrai qu'on a un peu cette idée qu'il y a une frontière un peu infranchissable entre le méchant capitalisme qui fait du profit et à côté de ça, les petits projets un petit peu sociaux, donc pour faire du bien à tout le monde. Et en fait, les deux sont pas irréconciliables. Et donc cet espace en particulier, mais comme je disais, il y en a d'autres, l'idée de mettre donc la technologie au service de ces projets-là, donc faire rimer en fait progrès social, économique et technologique aussi, parce qu'on entend souvent dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais je trouve qu'il y a quand même des projets qui sont beaux et qui valent la peine d'être présentés. Donc là, par exemple, dans cet espace-là, il y a plusieurs projets. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle Tech Fuji, qui est assez rigolo.
Tech Fuji.
Tech Fuji, comme les Fujis un petit peu, mais avec la tech devant. C'est en gros utiliser le big data, par exemple, pour améliorer les conditions des réfugiés politiques en France, par exemple. Et donc, plus globalement, je trouve ça intéressant, cette tendance un peu aux espaces aussi, à la fois donc start-up, entrepreneuriat, etc., mais aussi espaces un peu hybrides, où il y a plusieurs compétences qui se mélangent, où en fait, on redéfinit un peu l'espace de travail. Ce n'est pas des petits bureaux avec tel département, tel service, etc., mais c'est un lieu où on va mettre en commun plusieurs connaissances et essayer de tirer un peu profit de tout ça, en créant des synergies. Donc, s'il y a quelqu'un qui bosse, je ne sais pas, sur... sur le big data et que quelqu'un à côté fait quelque chose autour de relations clients, j'en sais rien. Ils peuvent mettre en commun leurs compétences et créer quelque chose de meilleur et de plus beau.
Alors dans les centres-villes, par exemple, à Paris, c'est vrai que les énormes boîtes maintenant quittent les centres-villes parce que ça coûte trop cher. Il y a beaucoup d'immobilier autour, dans la périphérie. Mais il y a de plus en plus comme ça de bureaux, de gens. Moi, dans des immeubles, des petits appartements, on ouvre et tout à coup, il y a 200 personnes qui travaillent. Chacune est une boîte différente. Il y a 200 boîtes.
En Caen, c'est pas un petit appartement. Ça fait quand même 2000 mètres carrés. Donc c'est 200 fois mon petit appartement à moi. Donc c'est plutôt de gros espaces. En fait, souvent, c'est des lieux, soit des anciennes usines ou des anciens entrepôts ou des trucs qui sont réhabilités en fait pour ces visées-là. Quoi. Après, je sais pas comment
alors,
ça se passe.
Oui, parce que là, vous m'avez humilié en public. Dites-moi, il y a ça et il y a aussi ça plutôt que ça. Parce que vous voyez, moi, j'ai quand même là, il y a des gens qui commencent à se moquer de moi. Rolin n'y croit plus. Atman est en train d'appeler d'autres émissions. Il y a aussi ces grands espaces de coworking et il y a aussi, j'y reviens, c'est des petits espaces où beaucoup de gens travaillent.
Mais tout à fait, hein, vous avez tout à fait raison.
Vous êtes en... Merci, chère Juliette.
Merci à vous.
Et on a appris qu'elle vivait dans un 20 mètres carrés.
Non,
10. Mais peut-être avec une autre personne qui est avec elle, vit qu'à 10, peut-être que de temps en temps, ils joignent leur mètre carré.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Il y a Thomas qui fait l'émission avec Yacine juste après. Ton glorieuse, Thomas Barrezan, qui est passé nous voir gentiment en secret. Vous nous apportez des gâteaux.
Voilà, de Tunisie, qui sont donc des Emmanuel Macroute.
Voilà, donc il y a un gâteau, un jeu de mots, voilà, un Macron, un Macroute. Voilà.
Un gâteau, un jeu de mots. Et bien sûr, un Marine Lipoun aussi, qui vient, lui, du Maroc. Je vous remercie,
c'est frais. Est-ce que c'est des blagues que vous testez chez nous, que vous ferez après avec
Exactement,
Yacine?
Exactement, c'est des blagues gratuites. Donc,
mais ça ne les retire pas de votre émission, quand même.
C'est des before vannes.
D'accord. Donc là, j'ai le petit before de l'émission Temps Glorieux. Tout ça, à tout de suite.
Moi, je fais les mêmes, je suis viré.
Oui. Attendez, c'est n'importe quoi, là. Je me dis que c'est la fin de l'émission, que Marie Misset a déjà fait son journal, elle parlait avec Barca. De quoi vous parlez? Rapprochez-vous du micro.
Ben oui.
Thomas Baumgartner, vous êtes en train de faire quoi, là-bas? Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne tiens plus du tout.
On parle de la famille de Barca, qu'on a rencontrée à Montpellier.
Mais vous êtes dans le studio de l'émission, il y a un direct. J'en ai marre. Là, vous êtes rencontré à Montpellier, la famille de Barca.
Oui, alors je disais, effectivement, ma famille formidable.
Bon, alors, ok. Quel est l'apport pour l'auditeur?
L'apport pour l'auditeur, c'est ma famille est formidable et on pense tous qu'il faut... qu'on a encore de la chance dans ce pays de voter contre quelqu'un. Parce qu'un jour, on n'aura même plus la possibilité de voter contre quelqu'un. Donc, c'est formidable.
Alors, vous avez parlé de votre famille, vous avez fait passer votre message politique. Bon, alors vraiment, j'ai l'impression que cette émission m'échappe.
Vous ne tenez pas l'antenne.
Je ne tiens pas du tout l'antenne. François Rollin.
Oui, l'auditeur attend son jeu. Hein.
L'auditeur attend son jeu.
Alors, ce matin, c'est un jeu inspiré des faux jeux que nous propose la télévision publique 20 fois par jour. Vous savez, ces façons de violer éhontément la loi en suscitant des appels téléphoniques surtaxés pour une loterie et déguisée en jeu. Alors la télévision privée le fait aussi, mais ça m'énerve un petit peu moins.
D'accord. Donc nous, on va le faire, c'est-à-dire que les gens peuvent appeler Nova et on facture leurs appels ou pas ?
Oui, bien sûr, on surtaxe, on facture. Donc voilà, 5 questions qui sont inspirées de ce type de questions. La première est celle-ci. Comment s'appelle le jeune reporter imaginé par le dessinateur belge Hergé, jeune reporter accompagné d'un chien nommé Milou ? 2 propositions. 1. Tintin. 2. Roumina Groubidi Paluchonchon. Non, ne riez pas, réfléchissez plutôt. 2e question, dans la chanson « Mon manège à moi », Edith Piaf chante « Tu me fais tourner 1. La tête, 2. Les talons ». Vous y êtes ? Dans quelle ville se situe le stade Vélodrome où joue l'Olympique de Marseille ? 1. À Marseille, 2. À Teresina del Campo. Alors vous notez, ça peut vous aider, que la bonne réponse est en général en première position.
Vous êtes fatigué. Hein ?
Alors, allons jusqu'au bout. Qui anime l'émission Plus près de toi le matin sur Nova ? 1. Edouard Baer, ou 2. Un duo Léonard de Vinci, Zizi Jeanmaire. Pas facile, hein ? Dernière question, et là, une question où la drôlerie et la légèreté le disputent à la pertinence et à la culture. Écoutez bien la question. Qu'est-ce que le boulanger vend sous forme de baguette ? 1. Du pain, 2. Des poils du cul. Alors, c'est le mot « cul » qui suscite logiquement l'hilarité. Voilà donc une belle journée placée sous le signe de l'intelligence et de la joie avec les compliments de la télévision de service public.
Mais il n'y a pas de... on ne répond pas.
Si, on a
répondu en son fort intérieur.
Mais on gagne rien.
Si, Nova gagne, tous les appels sont surtaxés.
Parce que les appels sont surtaxés, oui.
Voilà, tombe dans la caisse.
comme il aura fait du mal dans ce pays, François Rollin. Comme il aura sali, comme il se sera essuyé ses souliers pleins de boue sur la France comme une serpillière. Comme on lui paiera son billet de retour pour son pays d'origine. C'est
Dunkerque.
Quoi votre pays d'origine ?
Dunkerque.
Eh bien, vous allez prendre le France Dunkerque de 12h34. Hein ? Vous étiez à l'ombre du beffroi ?
Oui. À l'ombre de Jean Bar, surtout.
Une enfance...
Jean Bar, salut ta mémoire.
Bon, alors ça va aller très bien. Oui. Vous prenez la place de François Rollin.
Oui, parce que moi je voulais parler d'un jeu que je regarde de temps en temps, c'est The Wall. Vous voyez ce mur là, où, avec De Chavannes, tout ça et tout. C'est un jeu très cruel où je voudrais qu'on m'explique quelque chose. La somme gagnée est partagée avec les auditeurs.
Oui, alors ça c'est
scandaleux quand même.
Nouveau mensonge de la télévision.
Mensonge de la télé.
Passe son temps à dire vous avez gagné 120 000. Non, vous avez gagné 60 000.
Et voilà. Les émissions qui coûtent 2 millions à produire et où on donne 5 000 à une assoce, vous les connaissez aussi. Elles sont bien. Et parfois le mec perd et donc l'association n'a pas l'argent. C'est-à-dire les gens qui souffrent, oh ben ils n'auront pas l'argent. Je suis désolé, ils ont raté.
Alors que le chèque était si facile à faire. Voilà.
Merci beaucoup. Une émission extrêmement
engagée.
Moi, j'ai
encore le gâteau de Barbazan dans les dents. C'est très lourd, hein, la cuisine tunisienne.
C'est très
tunisienne.
Lourd, mais vous savez, ce sont des gens... C'est très compliqué. C'est des cultures très différentes. Ils vous en parleront à partir de 9h dans les 30 Glorieuses. Merci. Merci à tous. Merci, Armel. Merci, Eugénie. Merci, les amis. À demain, peut-être. Si, avec plaisir.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.